Billets d'Europe, animé par Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin. Début décembre 2019, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a dévoilé son Green Deal pour l'Europe, son pacte vert pour l'Europe. Alors Daniel, quelle en est l'origine ?
Le terme de Green Deal fait référence au New Deal, nouvelle donne en français, mise en place aux États-Unis dans les années 30 par le président Roosevelt afin de lutter contre la crise économique et sociale. Le terme Green Deal a été utilisé en 2013 pour désigner au Royaume-Uni un plan gouvernemental visant à améliorer l'efficacité énergétique des habitations. Quelques années auparavant, en 2007, Thomas Friedman, journaliste américain prix Pulitzer, a forgé dans le New York Times l'expression « Green New Deal » qui, dans les années suivantes, est devenu un concept planétaire désignant un ensemble d'initiatives en faveur de l'écologie. En juillet 2019, après avoir été choisi par le Conseil européen pour la présidence de la Commission, Ursula von der Leyen, en campagne auprès des eurodéputés pour son investiture, annonce qu'elle lancera dans les 100 premiers jours de son mandat un European Green Deal, un pacte vert pour l'Europe. Si des mesures avaient été prises par les commissions précédentes, nous l'avons vu d'ailleurs lors d'une chronique précédente, Ursula von der Leyen, en reprenant le concept de nouvelle donne verte, affiche une ambition qui dépasse le simple verdissement. Or, c'est peu dire que l'annonce a surpris, car Mme von der Leyen, femme politique allemande issue de l'Union chrétienne démocrate, CDU, à l'image de son parti, n'avait pas manifesté jusque-là un intérêt particulier pour la cause écologique.
Mais alors, comment expliquez-vous cet engagement ?
Alors, une première explication, sans doute la principale, tient au bilan en demi-teinte des deux commissions précédentes établies en 2018 par l'Agence européenne pour l'environnement. Or, dans le même temps, des acteurs publics sonnent l'alarme. Le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, met en garde sur les conséquences du réchauffement climatique et d'autres voix, comme le Bureau européen de l'environnement, le Réseau Action Climat ou la plateforme Think 2030, en appellent à une action plus résolue. Par ailleurs, dans la lancée de la COP21, une prise de conscience de l'opinion s'opère, accompagnée de la montée d'un sentiment d'urgence très sensible dans les sondages et dans les urnes, comme l'atteste la poussée électorale des partis écologistes, notamment en Allemagne. Ainsi, aux élections européennes de 2019, les Verts ont-ils enregistré un gain de 25 députés, ce qui représente plus de 40%. Enfin, avancé par quelques observateurs, il est une autre explication de nature plus politique, on dira. Les élections de 2019, ayant bousculé le schéma traditionnel d'une assemblée construite sur deux forces principales majoritaires à elles seules, les conservateurs du PPE et les socialistes, Mme von der Leyen, pour obtenir l'investiture, aurait introduit la problématique climatique dans son programme avec les Verts en point de mire. En juillet, elle est approuvée à une courte majorité de 9 voix et les Verts ne lui ont pas apporté leur voix.
Alors, quel est l'acte de naissance du Pacte vert pour l'Europe ?
Alors, le Pacte vert pour l'Europe ou Green Deal est présenté au cours d'une session plénière extraordinaire du Parlement européen qui se tient le 11 décembre, soit 10 jours seulement après la prise de fonction de la Commission. Pendant 2 heures, la présidente expose sa vision de l'avenir et le programme écologique qu'elle entend suivre pendant les 5 années de son mandat. J'ouvre les guillemets. Aujourd'hui, dit-elle, il s'agit de réconcilier l'économie avec la planète. Au cœur du pacte, il y a l'objectif climatique ambitieux de faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone en 2050, en couvrant non seulement les émissions de CO2, mais aussi de tous les gaz à effet de serre, dont le méthane. Cet objectif sera inscrit dans la loi climat en mars 2020 et d'ici octobre, la Commission, sous le pilotage du premier vice-président Frans Timmermans, proposera une trajectoire de réduction des gaz à effet de serre pour atteindre cette neutralité en 3 décennies. Cela implique de réduire les émissions de carbone d'ici 2030 de 50 à 55% au lieu des 40% prévus. Or, si cette ambition de neutralité carbone en 2050 est soutenue par les parlementaires européens, à l'exception des députés d'extrême droite, elle ne fait pas consensus parmi les États, avec notamment une opposition déterminée de la Pologne, exprimée lors du Conseil européen des 12 et 13 décembre. Aussi, afin de convaincre et les États et les opinions de l'absolue nécessité de la transition écologique, il est prévu d'aider les régions les plus dépendantes du carbone. Appuyé par la Banque européenne d'investissement, l'agence InvestUE et par le cofinancement national, un fonds pour une transition juste doit, à partir de 2021, mobiliser quelque 100 milliards d'euros sur la période 21-27.
Mais alors Daniel, quel levier l'Union compte-t-elle actionner pour atteindre l'objectif ?
Alors l'Union entend actionner plusieurs leviers. Le premier consiste en une réforme de la fiscalité énergétique européenne annoncée pour la mi-année 2021. Il s'agira d'étendre le marché européen du carbone avec échange de quotas à de nouveaux secteurs tels le transport maritime et peut-être le transport aérien, bien qu'on ne parle plus d'une taxe sur le kérosène. Un deuxième levier réside dans la lutte contre le dumping environnemental de pays extra-communautaires ne respectant pas l'accord de Paris. Alors cela pourrait passer par l'instauration d'une taxe carbone aux frontières de l'UE et l'inscription des futurs accords de libre-échange dans le cadre donc du Green Deal. Enfin, dernier levier, les politiques sectorielles devront intégrer le pacte vert. Mais les obstacles s'annoncent redoutables, hein, avec entre autres le financement, sans doute entre 260 et 300 milliards d'euros annuels d'investissements publics et surtout privés à trouver, la résistance des secteurs économiques touchés et bien entendu la mise en œuvre à l'échelle communautaire.